Chapitre 2. La joyeuse atmosphère de Noël qui accueillit Gabriel à Cannes lui parut douloureusement bruyante, agressive. Des cafés et des restaurants lui parvenaient des échos de chants de Noël en anglais et des airs de jazz endiablés. Il fallait plaire aux nombreux touristes britanniques et américains qui devaient se sentir ici comme chez eux. L'air était doux. Il n'y avait presque pas de vent et le ciel étoilé au-dessus de la baie ressemblait à un voile de tulle bleu marine brodé de paillettes transparentes. La Croisette était le lieu de toutes les élégances. Les somptueuses automobiles déversaient devant les hôtels de luxe de riches messieurs-dames en tenue de soirée. C'était le 24 décembre. Les bouchons de champagne sautaient. Des branches de houx et de gui ornaient les tables. On avait sorti pour l'occasion la porcelaine fine, le cristal et l'argent. On s'affairait dans les cuisines, les écaillés ouvraient les huîtres, les bûches de Noël attendaient au frais d'être servies au dessert. À la seule idée de manger, Gabrielle eut la nausée. Elle était en route depuis près de 20 heures. Mais ce long voyage n'avait rien changé à sa douleur. Elle se sentait toujours aussi abattue, hébétée, désespérée. Quand Joseph avait frappé à sa porte, l'angoisse avait été immédiate. Boy n'aurait pas réveillé le domestique. Il serait entré avec sa clé et l'aurait rejointe sans l'aide de personne. Quelque chose de grave s'était passé. Elle l'avait deviné. Mais elle avait d'abord essayé d'étouffer cette intuition. Boy était un héros. Il ne pouvait rien arriver à un homme comme lui. C'est alors que le bon, le brave Joseph lui avait asséné le coup terrible, le plus doucement possible. Avec ménagement et compassion. Bien sûr, son domestique savait garder son sang-froid en toute occasion, mais la nouvelle qu'apportait M. Balzan l'avait ébranlé, lui aussi. Tout venait de basculer d'un coup. Gabriel avait la sensation presque physique que sa vie volait en éclats. Le premier moment de lucidité fut suivi d'un espoir fou. Il devait s'agir d'une erreur. Pendant de longues et absurdes minutes, Gabrielle s'était cramponnée à cette idée. Hélas, Étienne n'aurait pas fait la route de Royal Lieu à Saint-Cucufa en pleine nuit sur un malentendu. Et Joseph ne serait pas venu toquer à sa porte par caprice. Non, Boy n'était plus. Et d'un seul coup, elle n'eut plus qu'un désir, le voir. Peut-être pour se convaincre qu'il était bien mort. Peut-être aussi pour vérifier qu'il n'avait pas souffert. Elle voulait veiller auprès de son cercueil. Il était son homme, même s'il n'était pas son mari. Il était ce qu'elle avait de plus précieux dans la vie. Non, il était sa vie même. Sans Boy, plus rien n'avait de sens. Elle ne voulait rien avaler. Et quand Étienne s'arrêta en route pour manger quelque chose, elle but à contre-cœur le café qu'il lui apporta et n'accepta rien d'autre. Elle ne descendit même pas de la voiture, restant prostrée sur le siège en cuir sans desserrer les dents. Son amie ne méritait pas ce silence, elle le savait. Mais elle avait l'impression qu'elle ne pourrait plus prononcer désormais que les mots indispensables, comme si Boy, en partant, lui avait ôté la parole. Pour toujours. Étienne n'engagea pas l'auto dans l'allée sinueuse qui montait vers l'entrée principale de l'hôtel Carlton. Il s'arrêta en bas. Le moteur s'éteignit. Le silence s'abattit dans la voiture, malgré la rumeur assourdie des festivités qui pénétraient à travers les vitres fermées. Étienne prit une longue inspiration avant de se tourner vers elle. « J'espère que nous allons trouver Bertha. Elle loge ici, d'après ce que je sais. » C'est sa sœur qui saura le mieux ce qui est arrivé à Boy et où son corps a été déposé. « Oui, » dit Gabrielle. Et ce fut tout. Elle releva le large col de son manteau pour dissimuler son visage blême. Étienne lui toucha le bras dans un geste presque paternel. « Il faut absolument que tu dormes un peu. Il reste sûrement 2 chambres libres et... Dormir ? Quelle proposition inepte ! Comme si elle allait accepter que sa vie continue comme avant. Comment pourrait-elle dormir sans avoir revu Boy ? Non. Elle secoua vigoureusement la tête. Non, s'il te plaît. Toi, repose-toi. Tu l'as bien mérité. Prends une chambre, Je t'attendrai ici. Silence. Gabriel vit que son ami luttait pour ne pas exploser. Les muscles de sa mâchoire se contractaient, comme si en serrant les dents, il essayait de juguler la colère qui montait en lui. Il lui en voulait. Bien sûr qu'il était fatigué après cette longue route. Deux nuits de suite sans sommeil, c'était trop, même pour un osseur tel qu'Étienne Balzan. Et elle ne faisait rien pour l'aider. Mais il se contint. « Je reviens très vite », promit-il enfin. Il hésita encore quelques secondes, puis descendit de voiture. Il monta l'allée d'un pas souple. Il était grand pour un Français. Il dépassait même Boy d'une demi-tête. Ce physique de basketteur avait beaucoup impressionné Gabriel au début. Il seyait à merveille à ce fringant officier de cavalerie, joueur de polo et éleveur de chevaux. Un homme qui avait de l'allure, le meilleur ami qu'elle aurait jamais. Tout en regardant Étienne s'éloigner, elle fouilla machinalement dans son sac en quête de son étui à cigarette. C'était un réflexe. Elle fumait sans arrêt. Elle avait commencé à une époque où c'était encore très mal vu pour une dame. La nicotine la calmait. Tenir une cigarette ou un fume-cigarette en ivoire entre ses doigts lui donnait une étrange assurance. Braver les conventions et choquer les apôtres de la morale l'amusait au début. Désormais, la cigarette faisait partie de son image. Et personne ne s'offusquait plus de voir des femmes porter la culotte de cheval ou fumer. Coco Chanel avait fait souffler un vent nouveau. Elle eut au fait de trouver son briquet dans son sac. Elle l'actionna et une petite flamme bleue vacillante perça l'obscurité de la voiture. Une main frottant une allumette surgit tout à coup du fond de sa mémoire. Une petite lumière jaune qui jaillissait dans le crépuscule bleu-gris d'un soir d'été à la campagne. Il faisait déjà presque nuit sur la terrasse. Pourtant, Gabriel distinguait parfaitement, à la lueur de la flamme, la main étroite et soignée, aux ongles polis.
Une femme comme vous ne devrait jamais avoir à allumer sa cigarette elle-même,
disait avec un léger accent une voix masculine un peu rauque. On aurait dit que celui qui parlait avait avalé un bouchon. Elle n'avait pas relevé, se contentant d'inhaler sa première bouffée sans commentaire. Le regard fixé sur les doigts de l'inconnu, qui à présent secouait l'allumette, elle avait constaté « Vous avez des mains de musicien. » Chaque mot était accompagné d'un minuscule rond de fumée blanche.
« Je joue un peu de piano. »
Sans voir son visage, elle savait qu'il souriait.
« Mais je suis bien meilleur au polo. »«
C'est pour ça que vous êtes ici ?»
Sa main avait décrit un large cercle qui englobait la totalité du château de Royallieu, les écuries avec les purs sangs d'Étienne et le terrain d'entraînement à la lisière du parc. Il avait secoué la tête.
« Je crois que le destin m'a amené ici pour que je vous rencontre, mademoiselle Chanel.
» Vraiment ?
Elle avait eu un rire arrogant, sans la moindre trace de coquetterie. Elle n'avait nullement l'intention de flirter avec cet inconnu.
« Puisque vous connaissez mon nom, j'aimerais assez savoir à qui j'ai affaire. »
« Arthur Capel. Mes amis m'appellent Boy. »
« Coco ?»
Elle sursauta. Il fallut un moment à Gabriel pour reprendre pied dans la réalité. Le souvenir de ce soir d'été à Royallieu l'avait submergée, comme si Boy était là, à côté d'elle. Elle venait de revivre chaque seconde de leur première rencontre. Quelle douleur de devoir constater qu'elle se trouvait dans la voiture d'Étienne, et non pas sur la terrasse de sa maison, que ce n'était pas le commencement de sa vie avec Boy, mais la fin. Sans rien dire, elle baissa la vitre et jeta son mégot sur la chaussée.
« J'ai parlé avec Bertha, elle est inconsolable. »
Il s'interrompit, fit une courte pause.
« Bien sûr qu'elle est inconsolable. »
Un souffle de vent tiède pénétra dans la voiture, apportant le murmure des vagues. Une voix de baryton anglais entonna Jingle Bells. « Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. » La mélodie était approximative, mais la ferveur incontestable.